Bonjour, Raymond Richard au micro avec Sylvie Zamia pour l'émission du Cercle Laïque de Dreux. Parce que le 2 décembre, il va y avoir une véritable rétrospective sur l'esclavage. Donc ce dimanche 2 décembre, à Dreux, de 15h à 19h30, on va retrouver une exposition des affiches contre l'esclavage, de la généalogie qui amène les Guadeloupéens, les Antillais, à rechercher finalement qui étaient leurs ancêtres. Une conférence pour voir comment on est passé de l'esclavage à son abolition et comment aussi aujourd'hui cela se prolonge par du racisme. Donc il y a peut-être aussi quelques points à voir pour aujourd'hui. Il y a un documentaire et puis la musique. Donc tous les sens sont appelés puisqu'il y a même après un buffet. Donc c'est complet. Merci Sylvie Zamia d'être venue à Radio Grand Ciel pour nous parler de cette journée contre l'esclavage, ou journée de la mémoire aussi. Alors, précisez-nous un peu les choses.
Bonjour Raymond, merci de m'accueillir à Radio Grand Ciel. Merci de votre soutien également dans ce projet. Cette journée de mémoire nationale de la traite de l'esclavage et de leurs abolitions date du 10 mai 2006. Et c'est tout un parcours de nombreuses années, à la fois des Antillais, des associations antillaises, des habitants des îles françaises, des Antilles et de l'océan Indien, Réunion, parce que cette histoire avait été longtemps enfouie, peu racontée, était mal connue, alors qu'il y a ce problème du racisme qui est lié à l'histoire de l'esclavage. Et donc, la connaissance de l'histoire est extrêmement importante. La poussée des historiens et des associations a amené à ce que une loi soit passée en 2001, dite loi Taubira, l'esclavage crime contre l'humanité. Et pour aller plus loin, cette loi aussi voulait qu'on prolonge pas seulement d'une journée de commémoration, hein, mais qu'on prolonge ce travail sur l'histoire et la mémoire de l'esclavage, donc auprès des universités, auprès des établissements scolaires, avec une introduction dans les programmes de ces sujets dits sensibles de l'esclavage, et puis de favoriser toutes les actions de la société civile, comme celles que nous menons le 2 décembre. Mais sans ce
donc
travail.
On va parler essentiellement du 2 décembre, mais c'est vrai qu'il y a ces 170 ans, 1848-2018, 1848 c'est la loi de liberté.
C'est l'abolition immédiate et définitive dans les colonies françaises de l'esclavage, abolition de l'esclavage. C'est un 2 siècles, l'histoire de l'esclavage dans les colonies françaises. Avant, dans ces lieux, il n'y avait pas d'esclaves ni d'esclavage, c'était des îles pour les Antilles occupées par des Amérindiens. Voilà, donc on reparlera un petit peu d'histoire lors du 2 décembre pour contextualiser cette année 1848, expliquer comment on en arrive à abolir ce système.
Ça, je voudrais vous poser une question. Ce silence, il est dû effectivement au fait que des descendants de propriétaires de bateaux ou de Nantes ou de je ne sais où, ou même des hommes politiques se disent « on est coupable ». En fait, on n'est pas coupable des choses qui se sont faites avant. Et puis, est-ce que ça n'est pas dû aussi aux descendants d'esclaves eux-mêmes qui n'avaient pas envie qu'on dit, vos grands-parents étaient esclaves. Et en fait, je crois que des uns comme les autres, finalement, ça aboutit à une espèce de silence qui fait qu'on n'en parle pas. Or, maintenant, on ose parler et je crois qu'il faudrait en parler avec une certaine distance par rapport à un certain nombre de choses, encore qu'on vit aussi ce racisme au quotidien.
Le travail d'histoire, c'est vraiment essentiel. On le voit sur toutes les commémorations, même dont on suit aujourd'hui les événements, guerre 14, le centenaire, etc., les génocides arméniens, enfin, tout ce qui a été mis sous silence, les choses qui déplaisent, c'est effectivement les plus difficiles à raconter. Et tant qu'il n'y a pas un travail nourri par des recherches et des travail sur les sources, on a du mal à la maîtriser, à la connaître. Et l'idée donc de cette journée qui est menée avec l'association nantaise Les Anneaux de la Mémoire depuis plusieurs années et le Cercle Laïque, c'est vraiment de mieux faire connaître, parce que quand on comprend ce qui s'est passé, on n'est plus dans le jugement. C'est l'ignorance qui amène à conserver des a priori et à donner des jugements. Et donc, le plus difficile pour les descendants d'esclaves directement dans les Antilles, qui étaient la majorité de la population, par exemple, et dans les îles de l'océan Indien, c'est déjà, tout de suite après l'abolition, d'assumer auprès de leurs enfants, qu'ils avaient été esclaves avant. Et généralement, ils ont voulu aller de l'avant et se dire, bon, on a été esclaves, mais tant pis, maintenant, il faut y aller, on est libre, on est citoyen. Et il y a eu de belles ascensions sociales, hein, de preuves que c'était bien des êtres humains libres et capables de
libre
penser.
Libres et égaux en droit avec les autres.
Exactement. Mais c'était le fruit aussi d'un long travail de résistance de tous les jours, plus les grands combats pour la liberté des abolitionnistes et sur le terrain des anciens esclaves. Par contre, pour les gens qui perdaient le statut de maître, c'était beaucoup plus difficile d'en parler, et c'était eux qui avaient davantage la parole, si vous voulez, au sortir de l'abolition. Et ils ont espéré longtemps que ça se remette, mais non, c'était terminé, il n'était plus possible d'avoir de l'esclavage sur la terre de France. C'est ça la loi de 1848, sur les terres françaises. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, bon, les premiers temps ont été difficiles, donc ce sera l'occasion. Hein, vous imaginez les tensions, les voit encore aux États-Unis présentes. Hein, et nous, pour les Français, les Antilles sont à 7000 km. Donc, les tensions restaient sur place. Mais quand les Antillais sont revenus petit à petit en France, et j'avais oublié cette histoire un peu, où elle n'était pas reconnue dans tous les cas, et mal connue, ben, il y a eu encore des frictions et des tensions. Donc, 2001, 2006, 2018, les 170 ans, c'est tout ce chemin-là de mise en lumière.
À faire ensemble pour faire un peu de vérité, et puis pour faire du ménage, pour connaître aussi. C'est important pour mieux vivre ensemble.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Alors justement, parlez-nous un peu de cette journée du 2 décembre au Cercle laïque, qui comprend tellement de choses.
Mmh. Elle s'inscrit dans le cadre des commémorations de 170 ans de l'abolition que déjà la ville de Vernouillet a tenu à commémorer en avril 2018 avec une exposition, une médiation auprès des élèves. Il fait une conférence de l'esclavage à la liberté, 2 siècles de combat permanent.
Et là, vous allez reprendre cette conférence?
Non, là, non. Je vais vraiment
réduire la conférence, mais quand même évoquer cette histoire.
Et voilà, il faut mettre en contexte l'abolition, en fait. Il y a un avant et un après, et c'est un peu charnière. Donc, l'idée qu'on veut développer dans cette journée, c'est justement, on s'interroge sur le passage des esclaves à citoyens libres. Et grâce à cette entrée de la généalogie qu'on vous propose, ce sera de regarder ce documentaire qui s'appelle « Citoyens bois d'ébène », qui suit le parcours d'Emmanuel Gordien.
Oui, alors là, on prend sous un angle très particulier, c'est le fait qu'aujourd'hui, les citoyens des Antilles, de la Guadeloupe, etc., regardent ce passé de façon beaucoup plus apaisée et recherchent, font leur arbre généalogique.
Oui, c'est en voie d'apaisement, parce que chaque fois qu'on tombe sur le nom, je l'ai fait moi-même, de son aïeul esclave en consultant le site, un choucage donc, de généalogie du CM98, qui est l'association qui porte depuis 1998 cette idée de mieux connaître, mais de travailler sur la généalogie. Et donc, quand on tombe sur le nom de son ancêtre,
ça fait quelque chose.
C'est toujours un pincement.
Hein. Une émotion.
Et pour moi qui suis historienne de l'esclavage, ça fait longtemps que je fais ce travail déjà de généalogie. Et je sais dans quel contexte, je connais un peu, hein, parce qu'on a toujours à apprendre, le contexte mondial. Hein. C'est pas la Guadeloupe, mon ancêtre. Hein. C'est un parmi des millions d'esclaves, de personnes donc déportées de force dans toutes les Amériques, 12 millions au total, en comptant l'océan Indien. Bon, voilà. Cette histoire est plus difficile si on ignore que c'est une marche du monde qui est impossible une fois qu'elle a été lancée, hein, l'exploitation des hommes, production sucrière, etc., de l'arrêter d'un coup facilement. Ça a pris 2 siècles, c'est monté en puissance au XVIIIe siècle, et les combats pour la liberté, les abolitionnistes et les révoltes sur place ont amené à une première abolition pour la France, la première au monde, 1794, un rétablissement de l'esclavage
Les intérêts économiques ont primé sur les intérêts humains, disons les choses.
Exactement, la France a perdu sa perle des Antilles, Saint-Domingue, donc il faut rendre hommage au combat des esclaves et des libres de couleur
de cette grande île.
Saint-Domingue qui est devenu la première république au monde, Haïti, en 1802, et qui n'a pas passé pour la France, pour l'Empire. Donc il y a eu un rétablissement qui est très douloureux en Guadeloupe et en Guyane, les îles concernées par le rétablissement de l'esclavage. Et voilà, donc là on s'approche de nos aïeux, parce que 1848, mon aïeule, elle était probablement née dans les années 1820. Enfin, voilà, tout est un peu flou sur les dates. On rentre dans cette histoire sensible. Grâce à la généalogie, on peut parler des parcours de vie, essayer de comprendre comment ils ont vécu à cette époque-là. Et quand on voit ce qu'ils ont légué après, eh bien, c'est une immense force vitale, une culture, une manière de vivre, de manger, de danser. C'est pourquoi il y a le Gwoka, qui est une musique de résistance qui est née, qui ne s'appelait pas Gwoka, mais qui est née sous l'esclavage.
Donc ça veut dire qu'il y aura aussi dans cette journée de la musique.
Oui, en lien.
Menée par deux associations, donc Gwoka, que vous avez évoqué.
MKT, donc 98, Musique Culturelle Tambou, qui est une association de Trouaise.
Et c'est une musique qui est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.
Et ce n'est pas rien.
Et puis vous évoquez aussi une association culturelle des Antillais. Ça veut dire que maintenant aussi, pour ces personnes, il y a une mémoire apaisée et puis le sentiment d'un apport à notre culture. Ça, c'est intéressant.
Oui.
Parce que justement, comment être descendant d'esclaves, finalement, maintenant, ça n'est plus une tâche, mais on a le sentiment d'un apport culturel. Comment réagissent vos enfants par rapport à votre travail ?
Ce sont mes premiers supporters.
Ce sont vos supporters, voilà. Et ça me paraît intéressant de voir cette dimension.
Oui.
Et là, il y a une mentalité qui a beaucoup changé.
Déjà, elles n'ont pas eu beaucoup d'enseignement, parce qu'elles plutôt s'approchent des 30 ans aujourd'hui, en collège ou au lycée. Elles apprécient qu'aujourd'hui, j'apporte aux élèves une plus grande connaissance et elles suivent chaque projet. Donc, elles apprennent aussi en cours de route. Et elles pensent à ces élèves qui apprennent cette histoire mieux qu'hier.
Et que ce sont des citoyens un peu plus soucieux du respect des autres.
Vous avez tout dit.
Donc, une journée importante où on retrouvera ce travail de recherche des ancêtres, cette musique qui permet de voir, de vivre, de partager une culture différente. Eh bien, nous allons faire une petite pause avant de poursuivre.
Le Gwoka est la musique racine de la Guadeloupe, qui est devenue l'élément représentatif de l'identité guadeloupéenne. À l'origine pratiqué essentiellement par les descendants des déportés africains mis en esclavage, le Gwoka s'est aujourd'hui étendu à toutes les couches sociales, tous les groupes ethniques et religieux de la société guadeloupéenne. Les Africains déportés et mis en esclavage en Guadeloupe à partir du XVIIe siècle ont introduit les éléments constitutifs du Gwoka. Aujourd'hui élément emblématique de l'identité guadeloupéenne, il combine le chant responsorial en créole guadeloupéen, les rythmes joués au tambouka, maquin et boula, le chacha et tiboua et la danse. Dans sa forme traditionnelle, le Gwoka associe ces trois domaines d'expression en valorisant les qualités individuelles d'improvisation. On apprécie du chanteur soliste l'art de communiquer de l'émotion, l'éloquence, du danseur, toujours seul dans l'espace, la créativité et la qualité du dialogue qu'il peut établir avec le tambour soliste, maquet, ou du maquet, l'art de mettre en valeur les pas du danseur, tout en développant sa propre créativité. Hier, après s'être opposé à la déshumanisation des esclaves déportés d'Afrique, il a aussi contribué à la prise de conscience des droits politiques et culturels des Guadeloupéens. Aujourd'hui, le Gros Cas véhicule des valeurs d'éthique, de convivialité, de résistance, de respect et de dignité. Dans les échanges avec l'autre, le Gros Cas véhicule indépendamment des personnes les valeurs du vivre ensemble.
Vous êtes sur Radio Grand Ciel, dans l'émission du Cercle Laïque, une émission un peu particulière puisqu'on évoque la journée du 2 décembre 2018 autour de Citoyen Bois d'Ébène, un film, et plus précisément ce qui concerne l'abolition de l'esclavage, dont c'est le 170e anniversaire, 1848-2018. On évoquait la réaction des jeunes, alors de vos enfants, mais il y a aussi tout ce travail que vous faites avec des élèves. Alors on peut évoquer le travail des élèves du lycée Rotrou de Dreux, mais aussi d'autres établissements scolaires, des quatrièmes qui ont fait des textes de littérature. Vous évoquiez des élèves qui ont fait des affiches. Parlons un peu rapidement de tout ça.
Oui, on va présenter le 2 décembre, dans le cadre de cette journée aussi onusienne, puisque c'est le 2 décembre, la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage, 6 affiches qui sont le fruit d'un travail mené avec des élèves de terminale dans la ville de Saint-Denis, et qui est un projet Ville de Saint-Denis. Il y a une délégation mémoire qui travaille sur les mémoires.
Bon, alors effectivement, chers auditeurs, vous ne pouvez pas voir les affiches, mais là, on représente toujours des personnages. On ne représente pas de scènes de travail, on ne représente pas de paysages, on représente des personnes.
Le travail a été mené avec un photographe, un atelier de photographie, donc on va apprendre comment on fait une affiche, etc. Oui. Avec un atelier d'histoire que j'ai mené, donc avec une sensibilisation à l'histoire sur les 2 siècles et les actions qui sont menées dans le monde aujourd'hui. Et Manuel Gordien, qui sera présent, a participé aussi à la sensibilisation par la généalogie aux histoires de vie, qu'il sait très bien raconter.
Donc dans histoire de vie, ce qui signifie aussi les personnages. Donc ne ratez pas de venir voir cette exposition dans cette journée. Et puis, on évoquait aussi la recherche généalogique, puisque finalement, c'est autour de la recherche généalogique que s'est monté le documentaire Citoyen Bois d'Ébène, pour lequel il y aura le 2 décembre à Dreux, le réalisateur, Franck Salin, et Emmanuel Gordien, qui nous explique, qui est lui-même à la fois le personnage principal du film, ou du documentaire,
absolument,
dirons-nous. Alors, expliquez-nous.
Effectivement, il est président de l'association de généalogie CM98 aujourd'hui. Il est féru de généalogie. Et le projet de l'association, c'est de réunir le maximum d'éléments pour permettre de remonter cette filiation des ancêtres, de reconstituer un arbre généalogique. Et cette quête qu'il a menée, eh bien, elle a été mise en documentaire. Et c'est tout à fait étonnant, parce qu'il a pu remonter jusqu'à son ancêtre esclave, donc, Bourriki. Et grâce à des recherches, il a retrouvé le bateau, le navire sur lequel cet ancêtre était arrivé, et retourné jusqu'au Bénin, dans le village dont l'ancêtre venait.
Donc l'ancêtre a quitté sa forêt ou son espace naturel. Il ne pouvait pas être si facile d'être arraché à sa forêt et à ce merveilleux pays qu'est le Bénin pour être entassé dans un bateau et connaître cette traversée horrible où beaucoup mouraient pour arriver. Donc là, véritablement, c'est un vrai travail de mémoire.
Oui, le film nous rend ce sujet très vivant et sensible, puisqu'on va suivre Emmanuel Gordien tout au long de sa quête. Et au Bénin, il va rencontrer un prince, le prince Guézo, qui va l'accueillir aussi, qui peut-être viendra à Dreux, s'il est là. S'il est en France, il me dit qu'il viendrait, parce qu'il travaille énormément sur la mémoire au Bénin, parce qu'il faut faire aussi ce travail des deux côtés. Ça soulève pas seulement la question de « Ah, je retrouve mon ancêtre ». Non, 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 c'est
ça soulève aussi la question de la colonisation, certes, mais ça soulève aussi la question de comment les Africains eux-mêmes, les Béninois eux-mêmes, certains Béninois ont mis en coupe réglée leurs compagnons.
Absolument. La traite est interdite officiellement depuis 1817. Ça, c'est... Donc on est dans la traite française illégale. C'est ça l'histoire. Hein. C'est... On dit des choses qui sont à dire pour éclairer. Et donc le Bénin est un énorme pourvoyeur des plus gros en esclaves. Et ce qui est intéressant au-delà, c'est de voir comment on peut renouer avec l'Afrique, parce que la coupure de l'océan, l'esclavage, elle est quand même puissante pour effacer un peu son identité. Et lui, il fait partie des rares personnes qui vont retrouver leur village, parce que l'histoire est assez fraîche. Mais il y a, pour tous les Antillais, tous les descendants de déportés, cette possibilité de reconnecter avec les Africains et de se réconcilier aussi avec eux. Puisque, pour partie, les royaumes, les rois, ont pratiqué la traite, le troc des êtres humains. Donc, c'est pas facile de leur côté aussi de reconnaître cette histoire. Et ils doivent faire ce travail aujourd'hui pour les générations nouvelles et l'apaisement des relations entre les hommes.
Oui, parce qu'il y avait bien effectivement la colonisation, mais ça n'est pas que la colonisation qui était responsable de cela.
À cette époque, il n'y a pas encore la colonisation française en Afrique.
Mais il y a quand même du troc qui se fait au bord de mer. Et
C'est justement la suite de l'histoire, la colonisation.
Il doit encore s'écrire pour que toute la vérité soit faite. Mais c'est intéressant parce que finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on découvre que l'histoire qui se fait depuis si longtemps, ça a souvent été l'histoire des conquérants, l'histoire des princes, l'histoire de ceux qui sont victorieux, qui écrivent les mémoires. La conquête de la Gaule par Jules César, on connaît la Gaule par Jules César, mais c'était le conquérant. Est-ce que du côté gaulois ? Bon. Et aujourd'hui, on essaie de retrouver les histoires des peuples. Un peu différent. Mais bon, c'est...
essentiel.
Voilà.
Parce que c'est, il constitue la majorité d'une population.
Oui, en effet. Donc, en ce qui concerne la journée, donc, il y aura vernissage de l'exposition des affiches, nous en avons parlé. Nous avons parlé de la recherche généalogique et du film. Nous avons parlé de la conférence qui va quand même resituer tout cela dans un contexte. Et puis, un échange avec le public autour du documentaire entre le réalisateur et puis Emmanuel Gordien qui va expliquer comment il a fait cette recherche. Il y a aussi pour la fête des yeux, des oreilles et de l'estomac, de la musique, un buffet. Et lorsque vous mettez tout ça ensemble, cette journée, lorsque vous faites tout ce travail avec tel ou tel ou tel lycée, qu'est-ce que vous ressentez vous-même ?
J'ai pas de difficulté à parler de l'histoire, parce que, de cette histoire-là. C'est la différence avec la plupart des gens qui n'ont pas travaillé des années comme moi sur le sujet. Et je sens bien que c'est enrichissant à ce moment-là, l'échange entre les personnes, les professeurs, les collectivités, les membres d'associations, les acteurs, de se dire, parce qu'à chaque fois j'ai des retours, ils me disent « Ah, maintenant je comprends un petit peu mieux », ou bien « Ah, je n'avais pas vu ça », ou bien « Ah, je vais lire tel livre, je vais m'intéresser à tel sujet », parce qu'en fait, j'ai peut-être conscience, comme les travaux de mes pères, qui me permettent
d'avancer.
De dire, c'est qu'on est vraiment dans l'histoire du monde, la marche du monde en même temps. Et c'est vrai que ça s'y permet de savoir un peu mieux où on est, ça permet de comprendre un peu mieux le présent. Je pense au Brésil actuellement, aux États-Unis où c'est très tendu. Et quand c'est non dit, pas suffisamment éclairé, cette histoire reste vécue de manière sensible en fait.
Pourtant, on a l'impression qu'il n'y a pas tellement de leçons d'histoire. Quand on voit par exemple les résultats électoraux récents au Brésil ou aux États-Unis, où finalement la majorité qui l'emporte, on peut occulter tout ça. Et puis ce qui nous importe, c'est America First ou bien classe dirigeante brésilienne first, et puis tant pis pour les autres. Parce que c'est quand même un peu ça qui semble l'emporter.
Ça ne l'emportera pas parce que c'est un angle de vue. Et la culture, comme vous disiez, la richesse de la culture, de ses apports sur 5 siècles, depuis la rencontre avec les Amérindiens, au moment de Christophe Colomb et de son voyage, qui vont ensuite amener les Européens à se répandre sur tous les continents américains. Et donc c'est forcément malgré les intérêts, des échanges entre les hommes et les cultures, l'apport africain, donc dans le Gouoka, c'est vraiment, il faut tenir le coup dans une situation de déshumanisation sur la durée et à travers la culture. Ce qui fait que ces cultures, elles sont, après plusieurs siècles, déjà revenues en fait sur... Il y a un retour de cette culture métissée qui se répand aussi en Occident et qui fait la culture originale de nombreux pays. On ne peut pas voir l'Amérique du Nord sans le blues ou le jazz.
Donc c'est... Oui, c'est vrai. Alors, on accepte volontiers. Et puis même, le blues et le jazz sont mondiaux, sont les musiques mondes maintenant. Et puis, en même temps, ignorer leur origine. Et pourtant, souvent, on fait du jazz ou du blues sans se poser la question d'où ça vient.
Oui, mais il y a aussi une générosité. Vous le verrez dans le Gouoka, vous le verrez dans la présentation d'Emmanuel Gordien en généalogie, mon travail d'histoire et tous les gens qui travaillent sur ce sujet, c'est un sujet d'histoire humaine. On remet à sa place les hommes dans l'histoire, ce qu'ils ont vécu, mais il n'y a pas de revanche. Et il faut vivre avec. C'est la grande leçon que l'on tire de cette histoire. Et ne pas reproduire ce qui s'est fait, c'est-à-dire discriminer à l'envers.
C'est ce que j'allais dire, vous posez la question, parce qu'on a l'impression quand même qu'il n'y a pas de leçon d'histoire, puisque finalement on perçoit que, à la limite, le repli des hommes sur eux-mêmes, ou des replis nationalistes, ou bien une certaine rétractation, une certaine méconnaissance des autres, finalement on a l'impression qu'il y a à la fois ce mouvement de mondialisation et de multiculturalisme dans tous les sens, et puis en même temps un repli sur soi. Et donc là on dit, ben non, à quoi ça sert l'histoire? Alors c'est très, très paradoxal, parce qu'à la fois il y a quelque chose là que vous faites qui est d'une richesse extraordinaire et qui permet, chers auditeurs, ne ratez surtout pas cette rencontre du 2 décembre 2018 au Cercle Laïque. Et puis si vous avez l'occasion, regardez ces documentaires ou participez à ces conférences ou à ces mouvements. Mais en même temps, on a l'impression qu'il y a une partie de la population qui n'est pas concernée.
C'est long, hein? C'est long de... je vous disais, les programmes, c'est 2006-2008. Nos jeunes connaissent un peu mieux cette histoire, mais ils n'ont que...
C'est une connaissance qui va passer un tout petit peu, un petit bout de programme, et puis qui va être oublié, mais reviendra peut-être s'il y a quelques piqûres de rappel par la culture, par la musique, par...
Les jeunes vont porter ce qu'ils savent aujourd'hui. Ils ont un regard complètement différent. Ce sont ceux qui m'intéressent beaucoup, en fait.
Ceux qui font. Ouais. Qui font et ceux...
Ils auront conscience de ces siècles d'esclavage. Ils vont s'interroger sur l'esclavage. Vous verrez sur les affiches d'aujourd'hui, hein, le comité contre l'esclavage moderne qui est venu aussi participer à ce projet.
Parlez-nous un peu de cet aspect, là, de cette modernité, de cette actualité pour la fin de l'émission.
Oui. 45 millions de personnes mises en situation d'esclavage aujourd'hui. C'est les derniers chiffres. Nous, au moment des affiches, on a mis les chiffres officiels qu'on avait à l'époque. C'était pour moitié moins, 21 millions. Mais là, on a vraiment une inquiétude. Il faut s'interroger sur...
Sur des filières d'esclavage.
Oui, le travail de déshumanisation, d'exploitation qui est toujours à l'œuvre, partout dans le monde. Donc c'est un rappel, hein, ces grands moments de l'histoire dont on parle, ils sont là aussi pour nous rendre sensibles à ce qui se passe aujourd'hui, et on peut aller vers différents chemins vers l'exploitation de l'autre.
Voilà, donc l'actualité des droits de l'homme, elle est là aussi.
Oui, elle sera là.
Les droits de l'homme, ils existent parce que, quelle que soit la personne humaine, sa couleur, son âge, sa santé, elle a des droits parce qu'elle est homme ou femme.
Oui, c'est l'essentiel de ce travail pédagogique et général. Et vous remercier ceux qui nous soutiennent, Direction régionale des affaires culturelles, Centre Val-de-Loire, et le Fonds de participation des habitants de Drevernouillet, le Cercle Laïque qui nous accueille, et tous les bénévoles et les participants, et vous-même.
Bien, chers auditeurs, merci. Notre émission s'achève. Je vous dis bonne semaine à tous. Au revoir, et ne ratez pas de venir, si vous le pouvez, ce dimanche 2 décembre au Cercle Laïque, et puis autrement, d'aller voir un peu. Mais à quoi ça correspond, cette histoire ? Parce que c'est aussi la nôtre. Bonne semaine à tous, au revoir.